RCF.
Dans notre précédent entretien, Marie-Jo Guichenuy, vous avez insisté sur le fait que la prière est essentielle à la recherche d'unité, à mouvement œcuménique, donc une prière qui rassemble des chrétiens de diverses églises. Pourquoi est-ce que c'est si important la prière et est-ce qu'on n'aurait pas meilleur compte à essayer d'agir ensemble, de faire des choses, de monter des groupes, de se rencontrer, voilà, pour discuter?
Bon, tout ça c'est bien, mais je pense que s'il n'y a pas la prière au départ, ça c'est pas nourri quoi. La prière c'est le lieu où l'on va creuser ce désir d'être en relation avec Dieu et en particulier avec le Christ. S'il n'y a pas ça qui nous nourrit, qui alimente notre désir, le reste ça suivra pas.
Et cette prière, elle est vécue en dehors de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens?
Alors, on a une chance phénoménale sur Lyon. J'espère qu'ailleurs, c'est pareil. Je crois qu'on est dans la sixième année. Tous les jeudis matins, les responsables et quelques responsables laïcs, on se retrouve pour prier ensemble. On a commencé dans un salon, on était cinq, et maintenant, on est une trentaine. Donc, tous les jeudis matins, pendant une demi-heure, on part du texte d'évangile du dimanche qui suit, et chacun de nous, il y a deux parties. Première partie, on voit comment le texte résonne en chacun et à partir d'un mot ou d'une phrase. Et après, ça devient une prière pour chacun.
Comment est-ce qu'on construit une prière œcuménique?
Ouh, alors là, c'est très divers, mais c'est là où ça peut fâcher aussi. C'est-à-dire que je pense que la prière, c'est le lot commun de tous les croyants du monde entier, de n'importe quelle religion. Pour les chrétiens, il n'y a qu'à regarder Jésus.
C'est s'adresser à Dieu et le contempler.
Voilà, c'est ça. Et donc, on va reprendre toutes les grandes thématiques de la prière. La louange, la demande de pardon.
Le Notre Père.
Le Notre Père, oui, on le fait de manière systématique. Bon, c'est ça, c'est les grands. C'est à peu près la base. Hein. Mais c'est important parce qu'on se sent en communion les uns avec les autres via l'esprit que le Christ peut nous envoyer. Donc, c'est ça qui nous unit. Et on se rend compte que c'est hyper facile à faire et à vivre.
Ces temps de prière tous les jeudis matins, est-ce qu'il y a d'autres occasions ou d'autres moments qui permettent à des chrétiens de différentes confessions de se retrouver pour prier?
Alors, cette équipe du jeudi matin, on s'est dit qu'il fallait un peu plus loin. Et donc, en juillet prochain, nous allons vivre 4 jours de retraite à Mazy, c'est un Carmel. Et nous sommes une dizaine pour le moment de 4-5 églises différentes. On a envie de creuser ça, de se retrouver dans le silence et de vivre ensemble un peu plus longtemps quelque chose qui nous rassemble. Et cette prière du jeudi, ce qu'on s'est rendu compte au fur et à mesure, c'est que ça faisait vraiment de nous des frères et des sœurs. Parce que à partir du moment où on est branché sur le Christ ensemble, bien après, dans le dialogue, c'est quand même plus simple.
Il y a une fraternité qui se vit même.
La fraternité du jeudi matin, ça c'est essentiel. Et si on la vit pas, on est un peu, on a l'impression, quand il y a les vacances qui arrivent et qu'on dit qu'on se retrouve pas, on est un peu perdu tous. Le jeudi matin, on se dit tiens, alors du coup on pense les uns aux autres pendant les vacances, mais
il manque quelque chose.
Il manque quelque chose. C'est assez essentiel.
Est-ce que de manière un peu plus informelle, les uns et les autres peuvent, par exemple, assister à un culte ou venir à une messe ou à un office orthodoxe?
La particularité des cultes chrétiens en général, c'est qu'ils sont ouverts à tous. Donc moi, j'en profite allègrement. Donc un dimanche, je suis dans une église orthodoxe avec son iconostase, ses chants continus.
C'est l'iconostase?
Pardon. C'est le mur, je ne sais pas comment il faut appeler ça, sur lequel sont mises des icônes qui représentent le Christ, bien sûr.
Paroi, quoi.
Paroi, voilà. On pourrait dire paroi, oui, c'est ça. Et de l'autre côté, c'est le lieu de la sanctification. Il y a l'autel et c'est là que se vit l'anaphore, c'est-à-dire la prière eucharistique pour nous. Un autre dimanche, je vais aller chez des évangéliques avec leur musique, leur chant de louange et leur prédication qui peuvent durer une heure. Un autre dimanche, je vais aller chez des protestants réformés ou des protestants luthériens. C'est une diversité absolument incroyable.
Marie-Jo Guichenui, est-ce que je peux oser vous demander si c'est pour vous une manière d'aller picorer un peu partout et de faire votre petit marché chrétien en allant une fois à un culte protestant, une fois dans une messe catholique, une autre fois à une célébration orthodoxe? Est-ce que la diversité ne peut pas devenir une forme de confusion?
Peut-être, mais pas en ce qui me concerne, parce que j'ai la chance que ça fasse partie de ma lettre de mission. C'est ça qui est incroyable. C'est-à-dire que quand je vais chez l'autre, j'y vais pas pour picorer. J'y vais pour comprendre sa liturgie et essayer de comprendre, quand je dis liturgie, c'est à la fois toute la symbolique qu'il y a à l'intérieur de la liturgie. Chez les orthodoxes, ils chantent en permanence pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures. Parce que le souffle est important. Mais moi, je perds mon souffle à un moment donné. Quand je vais chez les évangéliques et qu'ils, eux aussi, ils chantent tout le temps et que le prêche dure beaucoup trop, à mon avis, je me laisse porter par les chants. Si j'y vais pour picorer, je suis fichue. Mais si j'y vais en me disant, je vais essayer d'entrer dans sa logique pour rentrer dans sa prière, c'est un peu différent. Même si j'en sors en me disant souvent, oh là là, finalement, je suis content d'être catholique. Voilà, c'est.
Mais vous arrivez à ne pas y être comme observatrice et justement à entrer dans ce mouvement de prière et à vous laisser porter, comme vous venez de le dire, par la célébration, la liturgie?
Je vais répondre en deux temps. Oui, parce que c'est une prière et que c'est une célébration et que je suis là pour prier avec eux et pour vivre cette célébration avec eux. Donc je me laisse porter par eux. Parfois c'est difficile pour moi parce que dans ma propre prière, j'ai besoin de certaines choses que je ne trouve pas chez l'autre, comme le silence par exemple. Chez les orthodoxes et évangéliques, il n'y en a pas. Donc je suis un peu frustrée, mais je sais que je suis de passage. C'est pas mon choix tous les dimanches, donc là-dessus. Mais en même temps, j'essaie de comprendre pourquoi il n'y a pas de silence dans ces églises-là. Et quand ils viennent chez nous, c'est pareil. Ils se disent, oh là là, mais il y a peut-être un peu trop de silence pour nous. Donc c'est ça, la diversité et la richesse. Quelqu'un irait picorer, à la limite, pourquoi pas. Et on voit beaucoup de gens aujourd'hui qui cherchent le lieu où ils vont trouver leur propre manière d'être qui va être conforme à ce qu'ils ont. Mais peut-être que pendant 20 ans, ils vont aller dans une église et puis ils vont devoir changer parce qu'on change quand au fur et à mesure qu'on vieillit, qu'on lit des choses, qu'on découvre, on rencontre, et donc voilà.
Mais alors jusqu'où est-ce qu'il faut accepter de se laisser bousculer?
Alors je vais vous donner un exemple. Deux exemples. J'ai le temps pour deux exemples?
Allons-y, on vous écoute.
Deux choses qui vont répondre. Il y a quelques années, à la catéchèse œcuménique, on devait faire une rencontre autour de l'Esprit-Saint. À un moment donné, on avait prévu un temps de prière, on voulait leur mettre un bracelet pour dire que cet esprit, il était en permanence avec nous. Et puis moi, je sors bêtement parce que je suis catholique. Qui sait qu'il y a des pelotes de couleur rouge chez eux parce que, ben voilà, on leur mettra. Et là, tous les protestants m'ont dit, mais pourquoi rouge? J'avais deux solutions. Soit d'imposer ma couleur liturgique, qui est le rouge chez les catholiques. Soit la deuxième solution que j'ai fait, parce que là, je me suis dit, aïe, 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 mais qu'est-ce que t'es bête? Et j'ai posé la question à tout le monde. Au fait, si je vous dis Esprit Saint, quelle est la couleur que vous allez? Et devinez quelle est la couleur qui est sortie? Le jaune, y compris chez les catholiques. Vous voyez que ça permet de...
Ça tient à rien, mais
ça
c'est...
Ça tient pas à grand-chose. Eh bien, on a donné...
C'est important.
Oui, c'est important parce que les protestants se sont sentis finalement écoutés. Moi, je suis pas partie bille en tête dans... Et c'est là où je me suis... Vraiment, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé ce petit événement. Et finalement, je me suis rendu compte que les catholiques, le rouge, c'était pas fort, fortiche pour eux non plus. Hein. Alors, il y a un autre
exemple.
Exemple qui m'a beaucoup, beaucoup perturbée. Pas perturbée, non, mais qui me tient beaucoup à cœur. C'est quand je vais chez les Éthiopiens ou les Coptes et que je vois le pain qu'ils utilisent et que je découvre que c'est du pain chaud. Alors, quand on est dans l'assemblée, on ne peut pas voir, mais quand on s'approche et que, surtout, on pose des questions après, en fait, ils choisissent le plus beau pain parmi les pains qu'ils ont fait parce que ça doit être beau. Et qu'ensuite, je découvre que c'est du pain chaud. Et j'ai posé la question, pourquoi du pain chaud ? Ils m'ont regardé comme si je posais la question la plus stupide de ma vie. Mais Jésus est ressuscité, donc le pain doit être chaud. Et moi, je pense que je suis catholique et que j'ai des hosties à manger tous les dimanches. Alors que ça, c'est sec pour le coup. Hein. Il faut avoir beaucoup de foi pour manger des hosties quand on vient de dire un truc pareil. Donc moi, ça m'a beaucoup, beaucoup marqué ce genre de... Et ça, c'est une richesse qu'ont les autres. C'est indéniable. Nous, il suffirait d'un petit peu pour qu'on puisse changer. Hein. Les protestants aussi prennent du pain. Mais cette histoire de... Il est vivant, donc le pain et le vin doivent être chauds. Alors ça, c'est absolument extraordinaire. Chez les Éthiopiens, à la fin de la célébration, je les voyais boire de l'eau. Je leur dis, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Et chaque fois, je le voyais. Bon, à un moment donné, j'ai posé la question. Là, pareil, ils me regardent et ils me disent, mais tu comprends, on a accumulé tellement de force de l'Esprit Saint, on a le feu en nous, il faut un peu l'apaiser. J'étais sidérée de cette foi qu'ils avaient dans la force symbolique de la liturgie.
À demain, Marie-Jo Guichenuit, merci.